Radio Bark, deuxième de la saison, troisième partie. Et comme je l'indiquais en tout début d'émission, notre invité est Nicolas Saint-Cluc. Alors, juste avant la pause, nous évoquions cette fameuse rocade dont la compétence est départementale. Il se trouve, Nicolas Saint-Cluc, que vous êtes aussi conseiller départemental, même si ce n'est pas tout à fait votre compétence, même pas du tout. Mais quel regard et quelle connaissance apportez-vous là-dessus ?
Alors sur ce dossier de la rocade, c'est vrai qu'on pourrait y voir une relation de cause à effet avec les futures élections législatives ou présidentielles. Et pourtant, pour ce dossier, il n'y en a aucune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu des attaques, effectivement, de Nouveau-Narbonne. Alors, je crois que c'était M. Melquier, me semble-t-il, sur l'Arlésienne, en indiquant que voilà, cette rocade n'était toujours pas faite, qu'elle ne se ferait pas. Et il se trouve qu'André Viola a négocié avec l'État pour faire en sorte qu'on ait un avis favorable rapidement, ce qu'il a obtenu en août 2016. Et à partir de là, aujourd'hui, le calendrier est clair et précis. Le terrassement devrait être fait, commencé à partir de mars 2017. Et donc, effectivement, la boucle va être enfin bouclée.
Alors, voilà. Ça ne serait pas le département qui traînait les pieds, ce serait l'État.
Il y a eu quelques difficultés aussi avec l'État. Vous savez qu'on a eu des difficultés par rapport à des problèmes environnementaux. Les quatre saisons, ça a été fait. Problème aussi de c'est ce qui était naturel, hein, par rapport à du biotope, à certains animaux. Il y a le papillon aussi, je crois.
voilà.
Voilà, des études. Et aujourd'hui, tous les feux sont ouverts. Et c'est validé. Il n'y a plus que l'enquêteur public, effectivement, qui va rendre son enquête fin décembre. Et à partir de là, on va enfin pouvoir commencer les travaux. Vous avez d'ailleurs vu que beaucoup de choses s'étaient mises en place, que des camions aussi avaient enlevé de la terre, avaient un peu anticipé, pour permettre de faire ce terrassement rapidement.
— Bon, parce que l'espèce protégée aussi en la matière, c'était le Parti socialiste qui perdait un peu de sa crédibilité, là.
Je ne sais pas si le Parti socialiste est une espèce protégée.
À protéger, étant donné...
Je crois qu'actuellement, c'est tous les partis qui sont à protéger, puisqu'il y a effectivement un ras-le-bol au niveau de l'engagement politique et au niveau surtout de l'image des politiques. Et c'est vrai qu'on a peut-être tous notre mea culpa à faire et à être un peu plus transparents dans nos modes de fonctionnement.
Bon, mais relevons donc que M. Viola a pris son bâton de pèlerin et il est allé un peu secouer les plumes, si je puis dire, à certains qui auraient dû bouger un peu plus. Alors, wait and see, comme on dit en occitan d'Occitanie. revenons à votre... Alors, si je puis dire...
Tu peux quand même le sortir en occitan, toi qui le parles si bien.
Oui, mais wait and see, esperan. Attendons. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, Nicolas Saint-Cluc, donc le porte-parole de J'aime Narbonne. Rappelons ce qu'est cette association qui s'est créée dans le sillage, je crois, de la précédente élection municipale.
Oui, tout à fait. Donc c'est une association qui regroupe tout simplement les citoyens qui ont envie de participer à un projet pour le Grand Narbonne. Et qui, bien entendu, veulent participer au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'environnement, au niveau aussi du mode de fonctionnement, la démocratie participative, enfin, toutes sortes de thèmes, et qui regroupe à la fois les personnes qui étaient avec Jacques Bascou et d'autres. C'est-à-dire qu'on essaye d'ouvrir le plus large possible. Donc vous avez des gens qui sont encartés, des gens non encartés, d'ailleurs beaucoup, essentiellement des gens non encartés. Hein. D'ailleurs, je crois qu'une personne m'a encore demandé sur Facebook, justement, de qui était composé. Est-ce que J'aime Narbonne était composé essentiellement d'élus? Non, elle n'est pas composée essentiellement d'élus. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine d'élus à J'aime Narbonne. Et toutes les autres personnes sont des personnes non encartées. On a à peu près aujourd'hui 190, hein, presque 200 personnes, qui tout simplement ont envie que cette ville évolue différemment.
L'objectif, c'est territorial, si je puis dire, c'est le Grand Narbonne ou d'abord Narbonne? Parce que c'est devenu quand même très vite un outil de reconquête du pouvoir municipal, si je ne me trompe.
Municipal, puisqu'effectivement, le Grand Narbonne, vous savez, c'est M. Jacques Bascou, c'est le président Jacques Bascou donc, qui
est aux manettes. Donc ça n'est pas à reconquérir.
Mais c'est pas à reconquérir, mais c'est pas non plus à perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je crois que Michel Santo va pas me contredire, le pouvoir, c'est quand même aussi l'agglo. Le pouvoir économique, c'est l'agglo. Et de plus en plus, les agglomérations auront un pouvoir important. Voilà, c'est le sens de l'histoire. Et il est normal que les décisions et la mutualisation aient lieu à tous les niveaux pour avoir des politiques plus efficientes. Et je crois que si on a effectivement la ville et l'agglo, eh bien on pourra faire plus de choses. Parce que jusqu'à présent, il y a eu quand même beaucoup de couacs et de bâtons qui ont été mis dans les roues et qui font que les choses avancent moins vite que prévu.
Alors les couacs, on va y revenir. Michel, une remarque?
Oui, simplement pour être cohérent, je veux dire, en termes de communication, il serait d'ailleurs bien que J'aime Narbonne, en fait, ajoute, j'aime Narbonne et j'aime aussi le Grand Narbonne. Car effectivement, on ne peut pas concevoir que le futur maire de Narbonne ne soit pas, par exemple, aussi un jour le président du Grand Narbonne. En tout cas, bon, il ne pourra pas ne pas collaborer avec lui pour engager des grands travaux d'équipement dans tous les domaines, pratiquement.
Alors justement, les couacs, il y en a eu un certain nombre. Bon, on pourrait faire un petit peu... C'est à la fois du passé, mais du passé récurrent. Donc il y a eu ce fameux pont de Carcassonne, alors avec des anathèmes lancés comme quoi Jacques Bascou n'aimerait pas Narbonne. Donc j'aime Narbonne.
Je vous rassure, monsieur le maire m'a aussi invectivé pour m'indiquer que je n'aimais pas non plus les Narbonnais. Et que je servais à rien. Notamment, c'était
rien.
Je servais à rien. C'était le jour des associations, du forum des associations. Alors, c'est vrai que tout simplement, monsieur le maire, parfois est un peu trop dans l'invective et fait beaucoup de communication. Et c'est vrai que sur le pont de Carcassonne, eh bien, tout simplement, il n'y avait pas encore de plan de financement. Ça se jouait avec l'État. Les travaux ont été pour l'instant évalués, me semble-t-il, à moins de 10 millions d'euros, 9,7, 9,8 millions d'euros. Et donc comment voulez-vous qu'on puisse demander à une agglomération et à Jacques Bascou 2 millions d'euros sans savoir si, déjà si on va rentrer dans nos frais, c'est-à-dire en clair si on va avoir l'argent déjà de l'État qui est nécessaire pour faire les travaux, qu'on n'a pas encore estimé totalement. Et comment aussi peut-on invectiver le président du Grand Narbonne sans associer aussi toutes les autres communes? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est une communauté d'agglomération. La ville représente aujourd'hui 40% en termes de voix. Donc il y a toutes les autres communes à associer. Et puis surtout, pour rentrer aussi dans cette compétence, il y a aussi des textes, il y a une législation, il y a une réglementation particulière. Et on ne peut pas, comme ça, décider de 3 millions d'euros. Vous avez parfaitement raison, je crois,
de,
Michel.
2 millions, n'en ajoutez pas.
Oui, 2 millions d'euros.
Mais ces 2 millions d'euros, ils sortaient où? C'est une évaluation à la louche?
On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun écrit, aucun document précis pour indiquer, voilà, nous avons besoin de 2 millions d'euros parce que les 10 millions d'euros sont insuffisants pour telle et telle raison. Ce n'est pas du tout un raisonnement cartésien. C'est de l'annonce. C'est je veux faire mal à Jacques Bascou. Je veux montrer aux Narbonnais qui n'aiment pas Narbonne. Et donc je l'attaque, je fais cette annonce, peut-être aussi dans l'espoir aussi qu'on donne de l'argent, mais pour autre chose, je n'en sais rien.
Je pense que c'est ça, effectivement, mais comme Nicolas Saint-Euclug allait le dire, il y a aussi un problème de compétences. L'agglo ne peut pas tout faire.
Oui, voilà, oui.
Ces compétences sont cadrées par des textes qui interdisent, par exemple, notamment d'intervenir directement sur ce genre de programme. Je crois que l'agglo a un petit programme à traverser de village. À la limite, bon, si le préfet redéfinissait la notion de village, bon, et considérait que le traversée de la ville, en fait, était aussi une traversée de village, il pourrait effectivement, monsieur le maire de Moulin, demander une subvention. À ce titre-là, mais le fonds est très faible, c'est 500 000 euros, donc.
C'est bien connu, Narbonne est un gros village.
oui, voilà. Ben ça, c'est matière à interprétation. Alors les choses, par contre, semblent un petit peu s'améliorer. En ce qui concerne le pont de Carcassonne, je dis ça à la fois pour les élus, pour les politiques, mais surtout aussi pour les riverains, pour leur dire peut-être qu'un jour, ça va arriver.
Tout à fait. Donc c'est un dossier qui est très complexe, en fait. Au départ, je crois que M. Mouly, Nouveau-Narbonne, voulait dire, voilà, c'est la faute de Jacques Bascou, si ce dossier n'a pas avancé, etc., etc. Ils se sont aperçus, finalement, au fur et à mesure, que comme ça, c'est une partie qui se joue à trois aussi avec la SNCF, c'est très, très compliqué. Vous comprenez, un pont qui appartient à l'État, la voie publique qui est à Narbonne, avec dessous des caténaires qui sont reliés qui appartiennent à la SNCF, enfin, ça fait que, du coup, on a une problématique aussi de créneaux horaires pour pouvoir faire des travaux sur ce pont. Je crois qu'on va disposer que de 4 heures par jour pour faire des travaux, ce qui rend finalement l'opération très complexe. Et aujourd'hui, on est dans l'apaisement. On est effectivement, pourquoi l'apaisement ? Parce qu'il était temps, effectivement, qu'il y ait cette volonté pour que les Narbonnais puissent rapidement lever cette verrue. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ça crée des dysfonctionnements au niveau de la circulation. Alors d'ailleurs, Monsieur le maire a utilisé aussi cet argument du pont pour changer du jour au lendemain le sens de circulation dans la ville de Narbonne, sans aussi concertation préalable. Et il me semble qu'aujourd'hui, nos boulevards sont dangereux. Un autre couac aussi dont on pouvait parler, c'est les bus. Vous avez vu qu'au début de cette année, M. Mouly s'est offusqué en indiquant que le nouveau plan de déplacement pour les bus n'était pas bon, qu'il y avait des dysfonctionnements, etc. Premièrement, ils n'ont pas, me semble-t-il, trop participé aux commissions qui ont eu lieu pendant plus d'un an pour faire en sorte que, justement, ça fonctionne bien. Et surtout, il a supprimé du jour au lendemain les voies de bus, en contradiction avec tout ce qui se fait dans les autres villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'aussi j'ai vu, je sais pas, vous avez vu peut-être une réaction de Gem Narbonne cette semaine sur le fait que Gem Narbonne aurait été contre l'aménagement d'un parking de 130 places au niveau de Mayol, au niveau de l'espace.
Là, il y a eu un couac pas clair du tout, peut-être entre vous et d'autres de votre obédience, si je puis dire.
Oui, c'est-à-dire que chaque parti, chaque personne est libre de dire ce qu'elle veut. La seule chose, c'est que nous, et en tout cas par rapport au travail qu'on avait effectué sur la ville, on s'est aperçu qu'il fallait désengorger le centre-ville. L'avenir, c'est de désengorger le centre-ville. Et de permettre aux voitures de se garer aux zones extérieures, mais bien sûr, si on a des déplacements doux, si on a suffisamment de navettes, comme ça se fait dans toutes les villes, dans les grandes villes, mais aussi dans d'autres villes de même dimension, pour qu'effectivement on puisse respirer tranquillement, pour qu'on puisse faire ses courses tranquillement, pour que le centre-ville soit dynamique et puisse avoir des commerçants et puisse donner envie aux gens de s'y déplacer, il faut les rendre respirables et avec un environnement favorable. Or, le tout voiture, malheureusement, pendant trop longtemps, la vie des citoyens a été mise de côté et c'est la vie des voitures qui a été mise en premier lieu dans tous les projets de centre-ville. Aujourd'hui, on fait machine arrière. On fait machine arrière et ça va prendre du temps. Donc c'est pour ça que nous avons dit que nous étions parfaitement pour tout simplement la création, par exemple, d'un parking au niveau du boulevard de la Mayolle. C'est le sens de l'histoire.
Ah, mais alors, Nicolas Saint-Cluc, pour éclairer notre lanterne, parce qu'effectivement, il y a eu un quiproquo, on a eu l'impression que certains, en tout cas du côté du Parti socialiste ou je ne sais trop qui, a émis un avis franchement négatif.
Oui, ça peut arriver que des personnes pensent différemment.
Mais ça n'était pas
vous. Ça démontre bien aussi que, vous voyez, il n'y a pas de communication identique entre le PS ou Gem Narbonne. C'est-à-dire, Gem Narbonne, c'est un ensemble de
citoyens.
Donc c'était
le PS en tant que parti qui émettait un avis négatif.
Tout à fait, et qui a tout à fait le droit d'émettre un avis négatif.
Oui,
sur ce
à
parti.
Condition que ça soit clair. Et que ça n'empiète pas sur vos plates-bandes, si je puis dire.
Oui et non. À partir du moment où si la presse avait repris l'article en indiquant que c'était le PS qui avait telle opposition, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'effectivement, le journaliste qui a commis cette erreur, a commis une grosse erreur quand même. Hein. Est-ce qu'elle est. Voilà, c'est quand même une grosse erreur. C'est pour ça que j'ai réagi. Et je ne pouvais pas, et nous ne pouvons pas indiquer que nous étions contre, alors que nous avions pour projet de faire un parking de 400 places à cet endroit-là, pour justement permettre des engorgements et faire surtout une aire multimodale. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire au niveau de ma délégation, c'est-à-dire qu'on va créer, dans le cadre du territoire énergie positive pour la croissance verte, le département va créer des aires multimodales sur l'ensemble du département, et notamment une à Narbonne, au niveau de la sortie Croix-Sud de l'autoroute, de 140 places, et en coopération avec la ville de Narbonne. Donc vous voyez, on peut quand même travailler ensemble pour des projets qui sont structurants.
C'est acté, ça, ou c'est encore à l'état de projet ?
C'est acté, c'est pas encore terminé, mais les financements, on les a, et les conventions vont être signées aussi avec la ville, donc ça va être fait.
Donc on verra bientôt Didier et Jacques conjointement inaugurer cet équipement.
Et le département.
Oui, le département, bien sûr, qui est une troisième voilà. Partie
donc,
prenante.
Donc c'est vrai que les choses se sont apaisées. Je pense que M. Moulier, à force de s'isoler et de voir aussi qu'il ne pouvait pas tout faire, eh bien, il commence à comprendre qu'il faut effectivement qu'il travaille avec les autres. Car sinon, la ville va s'asphyxier.
Alors, on vient de le voir sur un projet comme celui-ci. Vous appelez ça, je crois, un espace multimodal, enfin un parking...
Multimodal, tout à fait.
Multimodal. Bon. D'ailleurs, expliquer ce mot qu'on emploie un peu quand même à toutes les sauces, c'est que le citoyen moyen ne comprend peut-être pas bien.
Multimodal, en fait, ça veut dire qu'on peut laisser sa voiture et disposer d'un autre véhicule. Alors, multimodal, en principe, les zones multimodales, le parking multimodal, c'est on garde son véhicule et on fait du covoiturage. Donc ce qui fait que ça réduit la consommation
de CO2. On réduit le nombre de voitures
et de trajets. Et c'est aussi intéressant économiquement et pour l'environnement. Mais c'est aussi la possibilité de prendre le bus, d'éventuellement aussi de prendre le vélo. Ça peut être toutes sortes de transports, voilà, communs aussi qui sont utilisés pour se rendre notamment au centre-ville. Donc c'est ça une aire multimodale, c'est-à-dire qui permet plusieurs modes de transport.
Bon, voilà qui est clair. Alors justement, maintenant, sur les préparations et les financements de ces équipements, vous l'avez dit vous-même, il y a l'agglo, il y a la ville et il y a le département. Ce qui fait que pour le citoyen moyen, comprendre aujourd'hui qui fait quoi, qui finance quoi, c'est extrêmement compliqué. Et vous êtes vous-même, Michel Santo le faisait remarquer tout à l'heure, vous avez déjà 3 casquettes à ce niveau-là. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Est-ce que vous-même, vous vous sentez pas de temps en temps un peu écartelé entre toutes ces responsabilités?
Bon, en fait, je suis élu à la ville de Narbonne en tant que conseiller municipal. J'ai pas vraiment de responsabilité. Puis vous savez d'ailleurs qu'on est très peu associés, nous l'opposition, dans les projets. Vous savez qu'on n'a même pas de place, de salle et qu'on a dû s'en financer une. En ce qui concerne l'agglo, j'ai pas non plus de responsabilité à part pour participer aux commissions. Mais je n'ai pas non plus de délégation. Donc finalement, j'ai ma délégation au niveau du département qui est déjà bien suffisante. Je vous l'assure. Alors comment ça fonctionne? Par exemple, quand la ville est propriétaire du domaine public et qu'elle veut faire un parking, c'est elle qui le finance seule. Elle n'a pas besoin forcément de l'accord des autres collectivités. Sauf si elle veut faire appel à elle pour d'autres domaines ou pour mettre en place certains services, par exemple.
Voilà, mais c'est rarement aussi clair et c'est de moins clair. En moins aussi
tout
clair.
Tout à fait. Hein. Par contre, pour les zones multimodales, ce que le département va mettre en place, c'est lui qui est le maître d'ouvrage. Ce sont les fonds en fait, européens. Vous savez, on a obtenu des fonds pour le territoire énergie positive, 800 000 euros pour le département, 400 000 euros plus exactement, et le département doit dépenser aussi 400 000 de plus. Et donc pour ces aires multimodales, eh bien on va tout d'abord créer des aires là où on est propriétaire, donc on a le foncier. Et après, avec la ville, on passe des conventions avec les différentes communes pour l'entretien de ces espaces. Et puis aussi pour voir ce qu'elles veulent y mettre. Si elles veulent y mettre, par exemple, une boutique, si elles veulent faire en sorte que le tourisme, par exemple, soit mis en avant. Enfin, plusieurs petites choses qui doivent être vues avec la commune pour tout simplement que le projet aussi soit accepté par le premier intéressé, c'est-à-dire celui qui reçoit cet investissement.
Oui, Michel.
Oui. Nos auditeurs se rappellent certainement les chroniques que je faisais à l'époque de la mise en place de la grande région, notamment la réforme territoriale, dont un des aspects est visé, un des objectifs visés est la fin des financements croisés. Ce que tu rappelais, hein, le département finance, la région finance, l'agglo finance, la commune finance et le contribuable, qui est toujours le même, entre parenthèses, lui ne sait plus qui est responsable de quoi. Donc l'État avait dans sa chaise, il dit maintenant c'est fini, chaque collectivité sur sa compétence, moi finance sa compétence, point.
Bon,
sauf le contrat. Là, à l'espèce, si j'ai bien compris, le département, il va travailler sur sa compétence. Sa compétence, c'est les routes.
Les routes,
etc. Mmh. Hein. L'agglo, elle, ne peut intervenir que sur la compétence schéma. C'est elle qui a la responsabilité d'établir le schéma des transports, c'est-à-dire la circulation des bus que l'on connaît, etc. Donc là, effectivement, c'est une compétence, mais qui est distincte de celle des voies. Et la commune, elle est responsable de quoi? Bon, dans cette affaire-là, pas grand-chose en réalité. Sinon, de devoir circuler sur son territoire, hein, des véhicules, hein, publics ou privés, bon, peu importe, grâce effectivement à ces terres. Donc, Et là, alors, si j'ai bien compris, le département souhaiterait que la commune entretienne les aires en question, mais le problème, c'est que ce sont des aires qui appartiennent effectivement au Conseil général. Donc là, on retrouve effectivement par ce biais-là des financements croisés, qui, de mon point de vue, d'ailleurs, ne sont pas, souhaitables. Hein. On pourrait très bien concevoir qu'à partir du moment où le département met en place effectivement cet outil, il le met en place et il le finance en totalité, quoi. Hein. Mmh. Les investissements et le fonctionnement, si tant est qu'il y ait du fonctionnement, entretien, quoi. Après tout, le département a la responsabilité, la compétence d'entretenir ses routes. À partir du moment où il crée une aire multimodale, il doit aussi avoir la responsabilité d'entretenir l'aire multimodale.
Oui, quand on parle d'entretien, en fait, c'est surtout les espaces verts, parce que quand on peut créer des espaces verts remarquables ou particuliers, dans ce cas-là, souvent les plus compétents sont les communes. On a remarqué, que voilà, c'est beaucoup mieux entretenu. C'est normal. Vous avez le département, hein, c'est très très vaste, et donc c'est beaucoup plus efficace d'avoir les services des communes qui entretiennent, tout simplement.
Non seulement ça, mais pardon, c'est effectivement la compétence communale, l'entretien des espaces.
Tout à fait.
Voilà, ce qui n'empêche pas que c'est extrêmement compliqué pour le citoyen moyen et qu'il y aura besoin encore d'autres émissions de ce genre pour expliquer. Merci en tout cas à Nicolas Saint-Cluc d'être venu nous apporter ces éclairages.
C'est moi qui vous remercie.
Et pour le prochain Radio Barque, alors nous recevrons Paul-Henri Viala, un ancien archiviste de la ville.
Ancien, pourquoi? Il est à la retraite?
Oui, que je sache. Et qui travaille sur un certain nombre d'ouvrages concernant le passé de Narbonne. Il nous parlera de ses anciennes fonctions et de son travail actuel sur l'histoire de cette ville. Alors, forcément, quand on aime Narbonne, Nicolas Saint-Cluc, on sera intéressé. Merci à vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.